franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous faites partie de ceux qui, en France, réjouissent de ce coup de pied donné par les électeurs grecs aux institutions européennes ?
Oui, moi je pensais déjà en 2012, lors des élections grecques, qu'il aurait fallu un choc de ce type. La cure d'austérité qui a été imposée à la Grèce, à l'Europe du Sud et à la zone euro dans son ensemble est une catastrophe. Le chômage a explosé en zone euro alors qu'il a diminué dans le même temps aux États-Unis, dans les pays extérieurs à la zone euro. On partait du même niveau de taux de chômage il y a 5 ans. Et aujourd'hui, le chômage a explosé en zone euro, il a diminué aux États-Unis. Donc on a fait les mauvais choix. Et la Grèce en particulier a payé un prix très lourd pour ses choix. Donc on a besoin d'un changement. Et il faut se saisir de cette opportunité pour penser un changement plus global dans la façon dont on s'organise en Europe et dans la zone euro.
Je rappelle quelques chiffres de l'austérité imposée à la Grèce et de cette vraie austérité, comme disait Thomas Legrand tout à l'heure. 200 000 fonctionnaires de moins en 4 ans, des salaires réduits de 30%, les retraites amputées, les dépenses d'éducation réduites de 28% et un chômage qui est aujourd'hui à un peu plus de 25%. Hein. Alors, le premier enjeu, Thomas Piketty, premier objectif de Tsipras, desserrer l'étau de l'énorme dette qui asphyxie le pays, 321 milliards d'euros, 175% du PIB. Quels sont les scénarios possibles ? Est-ce qu'il est imaginable qu'une partie de la dette soit purement et simplement effacée?
C'est ce qui s'est passé dans l'histoire à chaque fois que des dettes publiques ont atteint ce niveau-là. Et tous les pays, à commencer par l'Allemagne, lorsqu'ils ont atteint 200% du PIB en dette publique, ce qui était le cas de l'Allemagne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, s'en sont sortis par un mélange de restructuration, parfois d'inflation très élevée, de renégociation avec les créditeurs. Si vous voulez rembourser 200% du PIB en accumulant des petits excédents budgétaires de 1, 2, 3% du PIB chaque année, ce qui est déjà énorme, le budget total de toutes les universités en France ou en Italie ou en Grèce, c'est 1% du PIB. Donc quand vous dégagez 2, 3, 4% du PIB d'excédent, vous dépensez 2, 3, 4 fois plus que tout ce que vous investissez dans la formation des jeunes générations. C'est quand même pas facile. Même en le faisant ça, vous voyez, pour rembourser 200% du PIB, il faut 50 ans, 60 ans si vous n'avez pas d'inflation. Donc ce n'est tout simplement pas réaliste. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire, lorsqu'on regarde l'Allemagne, d'autres pays. Donc, on a besoin de restructurer la dette grecque. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut saisir cette occasion pour repenser la façon dont on organise la zone euro. Et je pense que là, le gouvernement français a un rôle tout à fait central à jouer. Je pense que le gouvernement français et le gouvernement italien doivent se saisir de cette opportunité pour reconnaître que le nouveau traité budgétaire adopté en 2012 et qui a organisé l'austérité et qui nous gouverne toujours dans
celui
la zone euro.
Celui que François Hollande avait promis de renégocier.
Oui, mais je crois qu'il est temps que François Hollande reconnaisse
à le faire.
Qu'il ne l'a pas renégocié et que ce traité n'a pas marché. Ce traité, que fait-il ? Il fait deux choses. D'abord, il donne des cibles de réduction de déficit qui sont trop rapides. On ne peut pas choisir le rythme auquel on réduit le déficit indépendamment de la conjoncture économique. Si on est dans une récession, on ne peut pas réduire au même rythme. Donc ces cibles sont mauvaises. Et surtout, il y a un système de gouvernance qui n'est pas démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pays ou deux pays, l'Allemagne et la France, qui décident pour le reste de l'Europe dans des conseils de chefs d'État, des conseils des ministres des Finances. Donc on a besoin d'une décision beaucoup plus démocratique où chaque pays est représenté en proportion de sa population, ni plus ni moins, et où on choisit ensemble les niveaux de déficit, d'investissement public. Et je suis persuadé que si on avait fait ça au grand jour, de façon publique, contradictoire, on aurait eu moins d'austérité, plus de croissance, moins de chômage. Et donc c'est ça aujourd'hui, il faut se saisir de cette occasion pour remettre cela en cause et arrêter de dire qu'on ne peut pas modifier les traités alors qu'on les modifie tout le temps. On les a modifiés en 2012 en 6 mois. Simplement, c'était dans la mauvaise direction. Et il est très important aujourd'hui que les gouvernements français, italiens, il va y avoir des élections en Espagne à la fin de l'année avec Podemos qui pourrait avoir un résultat comparable à Syriza, qu'on reprenne le problème européen dans sa globalité et pas simplement bricoler une solution sur le cas grec.
Il y a une opportunité aujourd'hui, il y a un moment politique qui est très différent d'ailleurs de celui de 2012 avec, on entend là, oui, Bernard Guetta le soulignait, des Allemands un petit peu plus ductiles ou flexibles.
Oui, enfin,
et en tout cas ouvert autant, à l'idée de...
Autant qu'ils puissent l'être. C'est vrai que même en Allemagne, la croissance n'est pas terrible. Elle est 2 fois plus faible qu'au Royaume-Uni, qui est restée en dehors de la zone euro. Mais en même temps, l'Allemagne se porte quand même mieux. Donc je pense que l'initiative doit venir d'abord de France et d'Italie et d'Espagne. Et je pense que si ces pays, ensemble, avec la Grèce, mettent sur la table un nouveau projet de refondation démocratique de la zone euro avec une nouvelle gouvernance pour plus de progrès social, un impôt en commun sur les sociétés, parce que c'est très bien de demander aux Grecs d'améliorer leur système fiscal et de faire en sorte que les riches Grecs paient un peu plus d'impôts. C'est une demande tout à fait raisonnable. Sauf que souvent, on est très hypocrite, parce qu'ensuite, les banques françaises et allemandes sont très contentes de recevoir des transferts de fonds des riches Grecs et on ne leur transmet pas l'information. C'est comme l'histoire de Cahuzac avec son compte en Suisse. Il n'y a pas de transmission automatique d'informations entre pays européens. On en a parlé, c'est toujours pas en place. Et donc après, on peut leur dire améliorer votre système fiscal. L'impôt sur les sociétés, même la France et l'Allemagne, n'arrivent pas à faire payer aux multinationales l'impôt sur les sociétés, qui font des deals avec le Luxembourg pour ne rien payer. Comment voulez-vous que la Grèce toute seule ait un impôt sur les sociétés qui fonctionnent ? Donc là, la solution, c'est un impôt commun sur les sociétés. Donc on est très, très hypocrite dans nos demandes aux Grecs et dans l'absence de coopération réelle avec eux.
Alors ça, c'est l'espoir que vous exprimez ce matin au micro de France Inter, que le vote grec puisse faire changer l'Europe, puisse faire évoluer notamment le traité budgétaire. Je reviens au cas grec quand même. Vous disiez tout à l'heure, oui, ça s'est fait dans l'histoire. On a vu des dettes annulé ou en partie effacé, sauf que la dette grecque, elle est en majorité détenue par des créanciers publics, FMI, autres pays de la zone euro, dont la France. 70% de la dette grecque est détenue par des créanciers publics internationaux, donc effacer une partie de la dette, c'est une perte nette pour les contribuables de la zone euro, Thomas Piketty, ça pose un problème.
Alors, il faut remettre les choses en perspective. Premièrement, la Grèce, c'est 2% du PIB de la zone euro.
Oui. Hein,
donc, il reste 90% du PIB qui ne sont pas à la Grèce. Deuxièmement, il faut d'abord commencer par ramener les taux d'intérêt sur la dette grecque à 0 ou à 1, qui sont les niveaux de taux d'intérêt qu'on paye. Il faut voir que jusqu'ici, si on fait le bilan sur les 5 dernières années, on a gagné de l'argent sur la Grèce, parce qu'en fait, on a emprunté à 1% et on leur a reprêté à 4, 5 et même au début un peu plus.
Mais on pourrait en perdre beaucoup si la dette est effacée, pardon.
Oui, mais attendez, pour l'instant, on en a gagné. Pour l'instant, on en a gagné et on a une responsabilité énorme dans le fait que le niveau d'activité de la Grèce, le PIB de la Grèce, est aujourd'hui 25% plus bas qu'il y a 5 ans. Donc, c'est une dépression de l'ampleur de la crise des années 30 en France ou au Royaume-Uni. Et ça, on a une très forte responsabilité là-dessus parce que ça n'a servi à rien du point de vue de la réduction de la dette. C'est ça, au contraire, qui a fait plonger aussi une bonne partie du niveau aujourd'hui de 175% du PIB, c'est que le PIB est très bas aussi. Hein. Donc une grande partie de cette baisse du PIB, elle est de notre responsabilité collective. Donc, à un moment, il faut reprendre ça en compte et simplement le fait de réduire fortement les intérêts, d'allonger la dette grecque, et il y aura une combinaison de toutes ces mesures qui sera trouvée.
Vous n'allégerez pas beaucoup le fardeau, hein, d'après les calculs du cercle Bruegel, en allongeant les échéances, on pourrait ramener la dette grecque à 160% du PIB au lieu de 175% aujourd'hui.
Oui, sur les intérêts, il y a un peu plus de marge. Mais c'est vrai que la dette grecque a atteint aujourd'hui un niveau qui est à la fois beaucoup plus élevé que beaucoup de pays européens. Mais vous savez, vous regardez l'Italie qui est à 130%, on a un problème qui est global. Je pense qu'il faut reprendre une solution qui avait été à un moment évoquée par qui avait été évoquée en Allemagne par le Conseil des économistes allemands, conseillant la chancellerie, plutôt des économistes de centre-gauche, centre-droit, pas du tout révolutionnaires. Ils avaient dit il faut avoir un fonds commun où on met toutes les dettes publiques au-delà de 60% du PIB. C'est-à-dire toutes les dettes publiques de tous les pays européens, y compris l'Allemagne, qui ont été augmentées par la crise, on les met en commun et ensuite c'est ce fonds commun qu'on va réduire à zéro, sur lequel on va réémettre de la dette avec un taux d'intérêt commun, ce qui permettrait aussi à la Banque Centrale Européenne d'être beaucoup plus efficace dans sa cible d'inflation. Parce que le risque aujourd'hui, c'est quand même qu'on a une inflation nulle, voire légèrement négative. Et ça, pour réduire une dette du niveau de celle de la Grèce, c'est ça aussi qui rend les choses extrêmement compliquées. Et est-ce que les mesures de la Banque Centrale Européenne d'il y a quelques jours vont suffire à ramener une inflation à 2%, voire 3%, voire un petit peu plus, c'est pas sûr du tout. Et ce serait beaucoup plus facile pour la Banque Centrale Européenne d'avoir une politique en faveur de la relance et de la reprise économique si on avait ce fonds commun des dettes au-delà de 60% du PIB, permettant ensuite d'avoir une cible claire d'inflation.
Donc ça veut dire que ce qu'on ferait pour la Grèce, on le ferait aussi pour d'autres pays très fortement endettés, le Portugal, l'Irlande, vous avez cité l'Italie aussi qui tous dépassent les 120%
oui, alors, attention, ce fonds commun,
de PIB d'endettement.
Si on mettait dans cette solution qui avait été proposée, si on met toutes les dettes publiques ensemble au-delà de 60% du PIB, ça ne veut pas dire qu'on rembourse la dette des autres. On est obligé de conserver des comptes pour savoir combien chacun a versé dans ce fonds commun. Et on continue d'avoir des recettes fiscales de chaque pays qui sont affectées à ce fonds en fonction de ce qui a été versé. Simplement, ce qu'on met en commun, et c'est déjà énorme, c'est le taux d'intérêt. Je voudrais dire, ça paraît un peu abstrait comme ça, le taux d'intérêt. Mais quand vous avez une telle masse de dettes publiques, l'Italie actuellement verse 5% de son PIB chaque année simplement en intérêt de la dette, c'est-à-dire 5 fois plus que le budget total de toutes ses universités. Donc à nouveau, est-ce que c'est une bonne façon d'investir dans les jeunes générations, de préparer l'avenir ? Et évidemment non. Donc le simple fait de mettre en commun le taux d'intérêt et de se prémunir sur une crise future, parce que tant qu'on aura ce système avec une monnaie unique, mais 18 dettes publiques, 18 taux d'intérêt, des paniques financières, il y en aura d'autres. Sur la Grèce, sur le Portugal, sur l'Italie, sur la France, personne ne peut savoir, parce que la taille des opérateurs financiers dans le monde d'aujourd'hui par rapport à la taille de la dette publique d'un pays pris isolément, ça peut créer des séismes dès qu'on a une vague spéculative sur tel ou tel pays. Donc le plus important pour se prémunir contre ce risque, c'est d'avoir une dette commune. On ne peut pas simplement avoir une monnaie toute seule commune et laisser tout le reste en concurrence, débrider les uns contre les autres.
Thomas Piketty avec nous jusqu'à 9h-5. D'autres questions à voir avec vous, bien sûr, dans la deuxième partie de cet entretien, notamment le programme intérieur, le programme de relance économique de Syriza. On en parlera aussi avec les questions des auditeurs au 01 45 24 7000. Dans un instant, retour à Athènes en direct avec Nicolas Demorand et puis la revue de presse avec Bruno Duvic.